Vous écoutez Kwe Bonjour avec Alexis Wawanoloat et Sophie-Claude Miller.
Quelle belle entrevue avec Alanis Abomsawin.
C'est toujours touchant d'échanger avec elle, puis surtout très inspirant.
Oui.
Honnêtement, là, c'est dans... une dame qui m'impressionne beaucoup.
Oui, puis dans le domaine des femmes inspirantes, on reçoit Émilie Monnet en ce moment.
Oui, une autre personne super inspirante.
Une Anishinaabekwe.
Quoi, ça va bien?
Oui, ça va bien, toi?
Ben oui, ça va bien. Merci. En création, là,
en
les derniers mille.
Bon.
Merci d'être là.
Ben oui, ça fait plaisir.
Donc, on te reçoit pour nous parler principalement aujourd'hui de Negamon Tunay. Est-ce que je le prononce comme il faut, premièrement?
Tunay. Tunay, ça veut dire chant en langue Inga.
Puis... ça va être présenté au Théâtre de l'Espace Go du 14 au 30 mai. C'est une pièce de théâtre, c'est de la poésie. C'est quoi, Negamon Tunay?
C'est, comment expliquer? Ben, c'est une expérience assez immersive.
Okay.
C'est plus de la performance, c'est très installatif. Donc, c'est comme un espace scénique. Il y a une vraie forêt. Là. Il y a des arbres, des roches, de l'eau sur la scène. Puis le public est assis au milieu de tout ça. Puis nous, on active l'espace par nos souffles, nos corps, nos voix. Puis il y a aussi des entrevues. C'est comme un peu un podcast immersif aussi, une balado immersive. C'est qu'on a fait des entrevues avec des gardiens du territoire de nos deux territoires. Là.
Pardon, Émilie, cette production-là est faite avec Waira Nina. Cette nation-là, ça vient de Colombie-Amazonienne, c'est bien ça?
C'est ça, oui. Elle est du peuple Inga. Donc, les Inga habitent un peu partout en Colombie, mais un de leurs territoires, c'est l'Amazonie colombienne, oui.
Et comment vous avez fait, comment est-ce que vous vous êtes rencontrés et vous êtes revenus à...
Comment l'aigle et le condor ont pu voler ensemble?
Ben oui, c'est une histoire assez particulière et très, très spéciale. On s'est rencontrés il y a plus de 20 ans. À l'époque, je faisais ma maîtrise aux Pays Basques, en Espagne. Puis elle avait été invitée, c'était une invitation de l'ONU sur le droit international pour les Autochtones. Mmh. Donc, elle avait été choisie comme une leader de l'Amérique du Sud à venir pour recevoir cette formation-là. Puis c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Puis après, je suis allée une fois en Colombie, en Amazonie, il y a longtemps. C'était pour un festival sur l'art et l'eau pour la vie. C'était en 2009, je pense, ou 2007. Et puis, comme j'étais là-bas, je suis allée lui rendre visite. Puis là, ça a été le début d'une collaboration. Donc, ça fait plus de 10 ans là, qu'on collabore.
Plus de 10 ans de collaboration en arriver à ceci qui va avoir lieu donc bientôt à l'Espace Go, où vous avez fait d'autres projets à part de ça. C'est un peu un work in progress.
Ben oui, c'est un peu le résultat de plein de choses qu'on a fait ensemble. Puis au début, tu sais, on pensait vraiment faire plus une plateforme pour des échanges entre des artistes autochtones du Nord et du Sud, de sa communauté, puis de la mienne. Donc, par exemple, il y a quelques années, elle a écrit un livre d'histoire pour les enfants qui sont des histoires courtes inspirées de ses expériences en cérémonie avec son père et ses grands-pères qui étaient tous des Taïtas. Donc, les Taïtas, c'est comme les médecins traditionnels là-bas, là, en Amazonie. Et donc, elle a écrit des histoires magnifiques. Puis on a fait un projet pour faire les illustrations de son livre. Donc, c'était avec l'artiste Glenna Matouche, l'artiste visuel Anishinaabe écrit. Donc, c'est ça. Donc, c'est beaucoup, beaucoup de projets, c'est ça, de rencontres puis d'échanges artistiques entre nos communautés, oui.
Est-ce que vous pensez éventuellement, parce que là, c'est diffusé ici, mais est-ce que vous pensez amener ça aussi peut-être dans le pays de Ware?
Ben oui, c'est un peu le but aussi. Puis en fait le projet en fait se centralise aussi sur l'extraction minière par des compagnies canadiennes en Amazonie en ce moment.
Oui. Mm-hmm.
Puis chez son oncle, là où il a construit, son oncle est un Taïta aussi, puis il a construit sa maison cérémoniale et ils veulent construire une route juste à côté pour que cette compagnie qui s'appelle Libero Cobre, qui est canadienne, puisse extraire plus facilement du cuivre. Donc c'est un peu surtout l'impact en fait que l'extraction a sur Waira, sur sa famille. Je veux dire, là-bas, les crimes envers les leaders environnementaux puis les leaders autochtones sont vraiment nombreux, puis il y a une impunité aussi là-bas. Tu sais, tu protestes et tu te fais assassiner, en gros.
Ouais.
Donc, c'est arrivé aux deux frères de Waira. Puis, donc, c'est ça, on regarde ça. Puis, bon, le cuivre, c'est quand même central aussi à la culture Anishinaabe, surtout des grands lacs aussi. Ça fait partie des cérémonies. Donc, c'est tout regarder aussi ce rapport au cuivre aussi, depuis nos deux cosmovisions.
Ouais, il faut savoir que les agents coloniaux dans les pays d'Amérique du Sud, d'Amérique centrale, puis tout ça, sont souvent des compagnies canadiennes.
Mm-hmm.
Puis
exactement.
Puis c'est comme tu l'as dit, qui ont peu de conséquences pour leurs actes. Ils commencent à avoir quelques dossiers juridiques qui sont ramenés ici au Canada, mais les lois canadiennes font en sorte que c'est un pays où beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entreprises, même mondiales, viennent s'enregistrer ici au Canada à cause qu'ils ont le free mining, puis ils ont beaucoup moins d'impôts à payer.
C'est vraiment... Puis ça nous fait vraiment réfléchir aussi, tu sais, s'il y a une demande plus accrue pour le cuivre, c'est parce que nous, au Nord, on veut faire un virage vers... les économies, tu sais, les énergies renouvelables, ouais. Les voitures électriques, les éoliennes, mais ça nécessite du cuivre. Donc là, ça te fait réaliser, waouh, ben l'impact que ça a sur les gens, sur la famille de mon ami aussi, tu sais, ce désir de vouloir, avoir une voiture électrique, mais on fait pas vraiment régler le problème de la surconsommation. On fait juste prendre une autre source plutôt que du pétrole finalement.
Oui, puis surtout le fait de connaître justement quelqu'un en proximité comme ça, ça rend cette réalité-là encore plus concrète, je présume.
Ben oui, ben tu sais, je veux dire, c'est arrivé ici aussi, là, mais il n'y a plus de cuivre ici, alors ils vont ailleurs pour aller l'extraire. Donc oui, ça fait réfléchir en tout cas.
Donc, Nigamun et Tuna signifie chant en Anishinaabemowin et Inga. Est-ce que...
Ouais.
Le manifeste poétique va surtout être dans ces deux langues-là ou on utilise un peu les langues coloniales comme l'espagnol, le français ou l'anglais?
Ben, en fait, il y a comme cinq langues dans le spectacle. Sur scène, Waira et moi, on fait beaucoup de sons avec notre voix aussi, mais quand on parle, c'est dans les langues Anishinaabemowin et Inga. Et sinon, toutes les entrevues qu'on a faites sont en français, en anglais et en espagnol. Donc on offre comme une traduction à l'audio. Donc les gens vont toujours comprendre qu'est-ce qui est en train d'être dit, mais c'est ça. Puis ce qui est en Anishinaabemowin et en Inga, on traduit pas.
Est-ce qu'on va au-delà de la présentation sur scène à l'Espace Go? Tu nous parlais d'un podcast un peu plus tôt. Est-ce qu'il va y avoir une plateforme où tout ça va pouvoir être disponible
dans les
Amériques?
Ben oui, c'est sûr que tu sais, ça, finalement, c'est pas beaucoup de gens là qui peuvent voir un spectacle, mais l'idée c'est comme ça s'inscrit dans une plateforme plus large aussi de faire des projets entre le Nord et le Sud. Puis donc on a aussi un projet de documentaire là qu'on développe aussi avec Waira qui sera sûrement la suite aussi de cette collaboration.
Cette collaboration-là, ce spectacle-là spécifiquement, il s'adresse à qui? Est-ce que c'est pour tous les âges? Est-ce que c'est pour les Autochtones spécifiquement? Ou est-ce que c'est pour tout le monde? C'est qui le public?
J'avoue que c'est pas des questions auxquelles je pense tout le temps spécifiquement. Dans l'équipe, on est quelques personnes autochtones aussi, donc c'est sûr que tu sais les conversations qu'on a, puis on parle beaucoup de la tortue aussi parce que la tortue c'est la base en fait de notre cosmovision ici sur notre histoire de création, mais pour eux aussi chez les Inga c'est la mère des eaux en fait. La femme s'est transformée en tortue pour prendre soin de l'eau, donc on parle de ça, puis on voit aussi, on fait des parallèles entre ce rôle traditionnel qu'on a en tant que femme d'être gardienne de l'eau, de s'assurer qu'il y ait de l'eau propre pour les générations à venir. Puis donc, on part de ça, puis voilà. Putain, j'ai oublié le début de la question.
Je me demandais qui était le public.
Le public. Mm-hmm. J'imagine que ça va être tout le monde, tu sais. Oui, je pense que les enfants peuvent venir voir ça aussi parce que c'est très immersif, puis très sonore aussi, très imagé. Mais oui, j'espère que ça va conscientiser les gens aussi sur ce qui se passe là-bas en Amazonie, puis sur à quel point nos réalités sont similaires. Mais c'est sûr que ça va parler aux personnes autochtones aussi, j'espère, en tout cas.
Waira, est-ce que c'est la première fois qu'elle venait au Québec, au Canada?
Non.
Okay.
Non, parce que comme on collabore depuis 10 ans, elle est venue souvent ici dans différentes résidences où on a fait des performances aussi.
Est-ce qu'elle a vécu un choc culturel en venant au Canada en comparativement au rythme de vie colombien?
Ben, la première fois qu'elle est venue, en plein mois de février, en hiver. Il y a une dizaine d'années, donc il faisait encore bien froid à ce moment-là. Non? Mais donc oui, je pense que le climat, ça a été un choc, mais sinon, je pense qu'elle se sent très très à l'aise aussi avec tous mes amis autochtones. Je pense qu'elle se sent en communauté. Il y a quand même beaucoup de choses qui nous relient aussi, hein, dans la façon d'être. Puis donc, il y a la langue, c'est sûr, mais c'est pas vraiment un problème avec sa personnalité.
Tant mieux, parce que aussi, il faut le dire, Montréal est quand même assez multiculturel, donc il y a quand même une certaine ouverture sur le monde, puis même si elle parle avec un accent hispanique, c'est certain que...
Elle parle même pas français ou anglais.
Même pas français ou anglais, OK.
Oui, non.
Donc, oui.
Est-ce que cette performance-là avec Waira fait partie d'un cycle de création ou d'une thématique spécifique à l'Espace Go?
Oui. J'ai décidé après Marguerite, qui était quand même un projet très dense puis très politisé aussi quand même. J'avais envie de plus d'amour, de chaleur, tout ça. Donc oui, c'est un cycle de création sur l'amour. Donc j'en avais fait un l'année dernière, ça s'appelait Nichimus, qui avait réuni plein de femmes autochtones super inspirantes sur le thème de l'amour, de la sensualité, de l'érotisme. Et là, c'est vraiment sur le thème de l'amour et l'amitié. Et il y aura un troisième spectacle en cours sur l'amour et les arbres.
Parce que d'un côté, comme un spectacle comme Marguerite, comme tu l'as dit, c'est politique et tout ça. Puis on, en tant qu'Autochtone, on est militant. Le fait de vivre est une action politique à quelque part.
Ouais.
Mais il faut aussi se donner le droit, si je te comprends bien, à être heureux, à vivre l'amour, à vivre des émotions qui sont au-delà du combat politique.
Ben, tout est politique, je pense, hein. Tout est engagé. Je pense que de parler d'amour, c'est justement un acte de résistance aussi, puis de réaffirmation, puis de réappropriation du désir, de notre sensualité, de notre connexion au territoire aussi. Tout est lié par rapport au thème de l'amour, donc je pense que c'est aussi très politique de parler de ça.
Puis moi, je trouve ça très pertinent parce que souvent, quand on parle de la sexualité des femmes autochtones, notre sensualité, notre vie érotique et de l'érotisme en général, souvent on est sexualisé d'une façon peut-être pas super positive par la société en tant que telle. Moi, j'ai entendu mon parrain qui me disait « Ah ouais, les Autochtones, pareil qu'au lit, là ». C'est vraiment des stéréotypes comme ça qui nous suivent. Donc, le fait de s'approprier notre propre sensualité, sexualité, je trouve ça vraiment, vraiment inspirant.
Ben oui, on en a besoin de plus de modèles comme ça ou d'espace pour parler de ces choses-là aussi.
Il nous reste quelques minutes, mais on approche la fin de notre entrevue. Je voulais juste mentionner rapidement que Koukoum de Michel Jean est en adaptation théâtrale, en collaboration avec Joséphine Bacon et Laure Morali. Vous assurez la mise en scène, donc ça va être produit au Théâtre du Nouveau Monde, et ça va être présenté du 12 novembre au 7 décembre. C'est une belle expérience à date de travailler au TNM?
Je veux dire, on n'est pas encore entré dans les, tu sais, là-bas. Là, on est rendu à une deuxième version du texte de Laure et de Joséphine, et c'est super. Et puis, c'est très excitant. On va commencer en juin là à s'y mettre en répétition.
Le livre a remporté un très grand succès et en plus, Laure et Joséphine sont des amies créatives.
Ben oui.
Donc, j'ai vraiment hâte de voir ça. Puis j'ai hâte de voir aussi la pièce à l'Espace Go.
Ouais.
L'Espace Go, ça fait quand même plusieurs années que vous travaillez avec l'Espace Go. Est-ce que vous sentez que c'est l'initiative qu'ils font envers vous d'inclure des Autochtones dans leur programmation, vous sentez que c'est bien sincère?
C'est des bonnes questions, hein. On est toujours en train de naviguer entre est-ce qu'on est une coche à caser ou est-ce que les gens sont vraiment intéressés par notre pratique artistique. Ben, j'espère que c'est la deuxième réponse que l'équipe artistique est intéressée par. Parce que je fais, parce que je présente. Et puis, bon, tu sais, c'est sûr que on doit toujours négocier. C'est des relations qui peuvent être frustrantes par moment, mais qui peuvent aussi beaucoup apporter. Pour moi, c'est quand même un tremplin qui a été important dans mon cheminement aussi. Mm-hmm. J'ai appris sur le tas aussi, donc d'avoir une institution derrière moi qui m'appuie, qui me donne des espaces de travail, des moyens pour réaliser mes visions, ben c'est énorme en tant qu'artiste. Donc je suis reconnaissante pour ça parce que je vois aussi le chemin que j'ai parcouru en 3 ans là.
Émilie Monnet, un gros merci d'avoir pris le temps d'échanger avec nous.
Miigwech.
Ouais. Donc, on invite tout le monde à aller voir à l'Espace Go du 14 au 30 mai.
Nigamon Tunai.
Nigamon Tunai, oui.
Ouais. Merci beaucoup, Tunesh Komitin.
Madjashan.
Merci, Madjashan.